Bonsoir à tous mes frères et sœurs. Ouvrons donc le Saint-Livre dans le prophète Ézéchiel au chapitre 22. Ézéchiel chapitre 22. Ézéchiel 22 verset 23. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ces chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Vous avouerez que le constat, il est quand même noir. Non ? La solution. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Relisons le verset 30, qui bien sûr est le verset qui nous intéresse. Je cherche, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Dieu cherche. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas, et j'espère qu'il va en trouver un ou une. Si vous étiez là mardi dernier, nous avons partagé un sujet qui était très intéressant, à savoir quand la prière ne sert à rien. Et nous avons pris une vingtaine de cas qui montrent que Dieu dénonce certaines façons de prier qui ne servent à rien. C'était peut-être pas glorieux, mais c'était nécessaire pour que nous comprenions que certaines façons de prier ne servent strictement à rien. Là, dans ce texte, nous avons un élément de réponse quand la prière sert à quelque chose. Nous le savons que beaucoup de comportements peuvent faire obstacle à la prière. Oui ou non ? Je sais qu'il y a des combats, je sais qu'il y a des luttes, je sais qu'il y a des moments compliqués, je sais qu'il y a des semaines difficiles, je sais qu'il y a plein d'éléments. Mais mes frères et sœurs, Dieu répond à la prière. D'ailleurs, on va lire une lecture qui pourrait être prise en conclusion dans la première épître de Jean. Oui, on citera ce verset à la fin, mais c'est pour vous expliquer quand même que la solution est liée. Même si le constat est très sévère, 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Ce sont des versets que je vous encourage à méditer lorsque vous n'avez peut-être pas trop envie de prier. Est-ce que ça vous arrive que vous n'avez pas trop envie de prier? Ou est-ce que ça arrive qu'à moi, cette affaire? 1 Jean chapitre 5, verset 14. Regardez bien cette parole, si elle est belle. Il y a beaucoup de paroles sévères, mais il y a beaucoup de belles paroles dans la Bible. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Vous y êtes ? On relit. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Oui, c'est beau d'avoir de la... Là, ce n'est pas la prière qui ne sert pas, je vous le dis. C'est l'inverse. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Oui, vous pouvez dire Amen. Nous avons vu la semaine dernière des prières qui ne servent à rien. Ce soir, nous allons entamer un sujet qui nous prouve qu'il y a des prières qui servent à quelque chose. Oui, ça va mal. Quand vous lisez le constat de ce qui se passait du temps d'Ézéchiel, franchement, vous trouvez que c'est grave? Est-ce que c'est grave? L'état spirituel est grave. L'état moral encore plus grave. L'état social est encore plus grave. Quoique ça nous fait penser un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui. Oui ou non? Hein? Mais le danger, et c'est, il faut comprendre ces choses. Le danger, c'est que la colère vient. Vous le savez que la colère vient? La colère, elle vient. Lorsque l'état moral et surtout l'état spirituel est lamentable, on peut s'attendre à ce que la colère de Dieu vienne. Alors vous avez vu, ce texte nous parle des prophètes, des sacrificateurs, des chefs religieux, des chefs aussi politiques, etc. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que tout ça, ça fréquente le temple, ça fréquente les lieux de culte, mais il n'y a aucune piété. On le voit plusieurs fois dans l'Ancien Testament. La semaine dernière, je n'ai pas pris tous les textes, car je n'en avais pas le temps. Mais on voit bien, à un moment donné, il dit « Ils aimaient l'Éternel ». Tu te dis, ça va marcher. Et juste après, virgule, ils aimaient aussi les Baals. Ça fait peur. Ils craignaient l'Éternel. Alors là, tu te dis, ça va marcher. Oui, mais en vérité, c'est pas vrai. Parce qu'ils craignaient en même temps les idoles. Vous voyez, comme il peut y avoir beaucoup de confusion. Alors, je ne veux pas revenir sur la prière qui ne sert à rien, mais je veux vous expliquer qu'on peut être dans le temple de Dieu et profaner. Vous avez vu quand il est dit, à la fin du verset 26, c'est bien de méditer. Vous savez, c'est bien de lire, mais c'est quand même mieux de méditer. Vous avez vu ce qu'il est dit? Je suis profané au milieu d'eux. Donc ça prouve bien qu'ils célébraient le culte, ça prouve bien qu'ils offraient des sacrifices. Ils avaient l'apparence de la piété, mais Dieu, lui, il faut l'écouter. Je suis profané, c'est-à-dire je suis méprisé. Méprisé, ça veut dire je n'ai pas de prix. Est-ce que vraiment le service, les cantiques, la prière, la prédication, la communion fraternelle, est-ce que ce sont des choses qui ont du prix à vos yeux? La Sainte Cène le dimanche matin, est-ce que ça a du prix? Est-ce que ça a de la valeur à vos yeux? Vous savez, Dieu voit comment vous répondez dans votre cœur. Et Dieu dit, je suis profané, ça veut dire, ça n'a pas de prix. C'est du cinéma. On comprend cette expression. Et le Seigneur, il le dit pas pour nous accabler. Vous savez, nous, des fois, on dit les choses pour régler les comptes. On dit, voilà, je vais te le dire parce qu'il faut que je te le dise. On peut dire les choses, c'est pas forcément intelligent. Ça vous est jamais arrivé de dire des choses que vous avez regretté de ne pas avoir... Oh, si j'avais su, j'aurais pas dit. Voilà, c'est la preuve que nous, on ne dit pas les choses comme on devrait les dire. Des fois, il faut les dire, mais des fois, il faudrait pas les dire. Mais Dieu, quand il dit quelque chose de sévère, il faut qu'il le dise. Comprenez bien qu'on ne va pas se comparer à la façon dont Dieu dit les choses. Mais là, on voit bien, ils ont méprisé Dieu. Et aujourd'hui, combien de gens méprisent Dieu? Vous savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quand il faut choisir, pour certains jeunes, je peux vous dire que s'il fallait choisir entre le match de foot et la réunion de prière, c'est choisi d'avance. Vous allez me dire que j'exagère? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a beaucoup de gens, quand il faut choisir entre Dieu, entre le Seigneur Jésus, entre le bien-aimé sauveur de nos âmes, entre le crucifié et le monde, je peux vous dire qu'il y a des chrétiens, ils ont vite choisi. S'il faut choisir entre une sortie le vendredi soir et qu'on va rentrer à 1h du matin, et le culte le dimanche matin, croyez-moi, c'est choisi. C'est choisi. Alors tout ça, je ne le dis pas pour jeter la pierre, moi j'ai aucun intérêt à accabler les gens. Mais c'est ce que Dieu dit dans la Bible. Ce qu'il faut prendre en conscience pour que Dieu puisse trouver quelqu'un, parce qu'il faut être intelligent. L'homme ou la femme, car je crois quand même que ce soir Dieu appelle une femme à devenir une véritable femme de Dieu, si vous étiez là pendant la prophétie. L'homme, la femme, le couple que Dieu va choisir, il vaut mieux qu'il sache pourquoi il faut qu'il se tienne sur la brèche. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu demande quelque chose, Il ne faut pas dire, ouais, c'est bon. Quand Dieu demande quelque chose, il vaut mieux savoir ce qu'il demande. Ça s'appelle l'honnêteté. Vous êtes d'accord avec moi? Si moi, demain, on me dit, voilà, en 2022, il y a un voyage sur Mars. Est-ce que vous voulez y aller? Qu'est-ce que vous diriez? Il y a un gars qui a fait une proposition, un milliardaire aux États-Unis, il a fait une proposition pour les gens qui veulent y aller. En 2022, il faut payer 5 000 dollars par personne, bon, ça fait 65 000 euros à peu près. Qui veut y aller? Il y a un prix à payer quand même, d'accord. Surtout que ce n'est pas sûr qu'il revienne. Moi, je vous le dis, ce n'est pas sûr qu'il revienne. Vous êtes d'accord, mais il faut quand même avoir de bonnes raisons d'y aller. Bon, vous allez me dire où tu nous amènes. Mais c'est plus important encore. Quand Dieu nous propose de trouver... Je ne sais pas, parce que nous, on est là, c'est une prédication de plus. Non, c'est un message de Dieu qui s'adresse à un homme, à une femme, à un couple, à un jeune, à un vieux. Est-ce qu'il faut être jeune ou est-ce qu'il faut être vieux pour servir Dieu? Vous croyez que Dieu est embarrassé par l'âge? C'est sûr que c'est déplorable quand on voit qu'on est obligé de chercher des vieux pasteurs pour s'occuper des églises aujourd'hui. C'est quand même un échec, quelque part, même s'ils font du meilleur travail que les jeunes. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Mais quand même, quand Dieu dit « je cherche un homme », on devrait peut-être s'asseoir et dire « je vais écouter ce que Dieu a à me dire ». Et pas une bonne prédication. Parce que la colère, elle vient. Je ne sais pas si on en est conscient. On sait très bien que les choses vont mal, qu'on vote des lois de plus en plus impies, des lois de plus en plus abominables, que le comité de sages de notre nation est complètement perverti. Mes frères et sœurs, je parle au niveau politique, mais mes frères et sœurs, Dieu règne. Et même si la colère vient, et s'il y a de fortes chances que le peuple de Dieu ne freine pas cette colère, si un homme ne se lève, en plus, Dieu dans sa bonté, mais c'est extraordinaire, parce que Dieu pourrait dire, voilà, je cherche, comme je le disais l'autre jour, pour que Dieu nous soit au milieu de nous, il aurait pu dire, bon, je veux que lorsque l'assemblée de Sainte-Agne se réunisse, et toutes les églises du monde, je veux qu'il y ait 75% des chrétiens, et là, je serai au milieu de vous. Il aurait pu le dire, ça, le Seigneur? Est-ce qu'il aurait pu le dire? Eh bien sûr, et ça tenait debout. Et Jésus l'a dit, deux ou trois, que son nom soit béni. Et là, il dit ce soir, mais il le dit, c'est solennel. Je cherche un homme, une femme. Et je suis sûr qu'il y a une femme dans l'Église qui a dû être interpellée pour passer et pour changer, comme on dirait en vélo, changer de braquet, au niveau spirituel. La colère, elle vient. Vous avez, tiens, on est dans Ézéchiel, oui. Vous avez lu Ézéchiel 38 et 39. On y fait un petit saut. C'est un chapitre, moi je l'ai médité pendant des mois pour comprendre ce qui va se passer. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que ça concerne vraiment Israël. Ça ne concerne pas l'Église. C'est un chapitre qui concerne Israël. Ézéchiel, j'ai dit 38-39. La colère de Dieu vient. Il y a un verset qui indique vraiment que ça va être terrible. Ézéchiel 38, verset 18. Et ça se prépare, ces choses. Alors, elles peuvent prendre 15 jours, comme elles peuvent prendre 2 ou 3 ans. Mais je peux vous dire que ça se prépare en coulisses, croyez-moi. Si vous regardez l'actualité internationale, Ézéchiel 38, 18. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel, la fureur me montera dans les narines. Comment vous avez dans notre version? La colère me montera jusqu'au visage. Écoutez, ce n'est pas des blagues. Cela veut dire que le monde est en train d'irriter Dieu. On le voit au début, vous voyez quand il est dit, juste un aspect, voici au verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'en veux à toi, Gog. Pourquoi Dieu en veut à des nations? On pourrait se dire, tiens, pourquoi Dieu en veut à telle nation? Cette nation, ça m'étonnerait que je me trompe, c'est la Russie. Pourquoi Dieu dit, j'en veux à toi? Mais parce qu'il y a des nations qui se sont proclamées athées. Il y a des gouvernements qui ont prononcé du haut de leur Assemblée nationale, Dieu n'existe pas. Alors, il y a bien un peu de religion, mais en fin de compte, la doctrine du pays, c'est Dieu n'existe pas. C'est pour ça que Dieu dit à certaines nations, j'en veux à toi. Et je peux vous dire que Dieu en a contre certaines nations. Tout ça juste pour vous indiquer que la colère de Dieu, elle se comprend. Bien sûr que quand on lit la Bible pour la première fois, on ne peut pas le comprendre, c'est normal. Mais la colère de Dieu, elle vient. Dieu a fixé un jour où il va juger le monde. C'est écrit ça? Dans Actes 17, il est dit que Dieu a fixé un jour. Sur le calendrier de Dieu, il y a une date. On ne la sait pas, personne ne peut la savoir. Personne ne peut savoir la date. Mais je peux vous dire que sur le calendrier du Seigneur, il y a un jour qui est noté, le jour où Dieu va juger le monde. Moi, je ne veux pas faire partie du jugement. Moi, je veux faire partie de la gloire de Dieu. Et c'est à nous de choisir. Heureusement que Dieu est un Dieu de patience. Moi, il y a un verset que j'aime rappeler dans mes prédications, dans mes prières, que la patience de Dieu est notre salut. Mes frères et sœurs, que son nom soit béni. D'ailleurs, si on est là ce soir, il n'y a que pour cette raison. La patience de Dieu a été notre salut. C'est sûr qu'on est affligé de voir que des gens décrochent, que des pasteurs chutent, que des pasteurs soient exclus de leur assemblée, que des pasteurs démissionnent parce qu'ils sont en conflit avec le conseil, tout ça. Vous savez, quand je pense à ça, quand j'étais jeune, je m'étais engagé dans l'armée pour faire ma parole, ma famille, parce qu'il y avait des ténèbres dans la famille. Et j'étais porteur radio, je portais les radios. Et on m'avait appris, quand on parlait dans les sections, écoutez bien, parce que c'est une image, la première personne qu'il faut tuer, Quand on est dans un combat, il faut tuer le gars qui porte la radio. C'est comme ça que ça marche. Il faut chercher le gars qui porte la radio. Parce que quand on tue le porteur CD, ça s'appelle, on le coupe des autres deux autres sections. Et c'est ce qui se passe en ce moment. On essaie de tuer tous les pasteurs. Le diable essaie de s'acharner sur les pasteurs. Parce que ça détruit les églises. Et ça, c'est un des éléments qui devrait quand même nous interpeller vraiment. Pour que vraiment dans les églises, les hommes de Dieu soient vraiment des hommes de Dieu. Il faut penser à ces choses. Heureusement que Dieu est patient, mais ça afflige Dieu. Alors vous voyez, des fois on me dit, mais pourquoi vous avez dit ça? Mais parce que c'est écrit. Regardez par exemple, regardez le texte dans Ézéchiel. C'est où? C'est dans la Genèse? C'est dans la Genèse où on, oui, c'est dans la Genèse. Au jugement de Sodome, ce genre, excusez-moi. Alors, Genèse 6. Oui, Genèse 6, verset 6. C'est important cette expression, parce que la colère, tout ça, on ne comprend pas la colère de Dieu. On ne comprend pas. Mais elle est réelle. Elle s'intensifie. Cette colère, elle est en train de monter au visage de Dieu. C'est une image, bien sûr, mais ça nous montre qu'il ne pourra pas faire autrement. La sainteté de Dieu. Mais regardez Genèse 6, verset 6. Il faut comprendre les choses. Parce que des fois, les gens me disent, pourquoi vous avez utilisé cette expression? Eh bien, parce qu'elle est biblique. Vous inquiétez pas, tout ce que je dis de la chair, ça correspond à quelque chose de biblique. Genèse 6, verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Alors, ce n'est pas comme la repentance de l'homme. Ça s'appelle un anthropomorphisme. C'est une image divine. Ça ne veut pas dire que Dieu regrettait. Est-ce qu'il savait que l'homme deviendrait comme ça? Bien sûr, donc, c'est une image. Et il fut, qu'est-ce qu'il fut? Regardez quand même, c'est le cœur du Seigneur qu'on parle. Il fut affligé en son cœur. Ça ne vous fait pas de la peine, ça? Le Seigneur, il est affligé. Il y a une tristesse dans le cœur de Dieu. Et il devra intervenir. Et il va utiliser Noé. Et les gens vont se moquer de Noé, comme les gens se moquent aujourd'hui quand on prêche la croix. On veut bien donner l'évangile social, mais prêcher la croix, bien sûr, vous ici, vous êtes habitués. Vous ici, ça ne vous choque pas. Mais il y a des églises, on ne parle plus des saints. Du sens sur les mains de Jésus, tout ça, ça fait ridicule, c'est presque comique. Aujourd'hui, dans notre 20e siècle sophistiqué, parler des meurtrissures de Jésus, mais quelle blague, mes frères et sœurs. On ne sera pas sauvé sans le sang de Jésus. C'est pas la peine. Et Dieu ne bénira pas autre chose de toute façon. Donc nous sommes dans la dispensation de la grâce. Que le Seigneur soit béni. Ce soir, je ne sais pas quel jour on est, le 11 octobre, la grâce de Dieu est sur la terre. Mais l'année de la grâce, je peux vous le dire, elle va s'achever. Et la colère de Dieu va venir. Dieu veut retarder cette colère. Comment? En appelant des hommes. Je cherche. Vous entendez? Je cherche un jeune homme. Je cherche un vieil homme. Je cherche une jeune fille. Je cherche une vieille femme. C'est pas nous parce que le mot vieux en France c'est devenu péjoratif, mais c'est honorifique quand on parle des vieux dans la Bible. Je cherche. Vous entendez? Dieu recrute. Vous entendez, frère et soeur? Dieu recrute. Ouais, ça vous fait rire, je sais. Dieu recrute. Dieu, pourquoi? Parce qu'il a une affliction sur le cœur. Il y a une affliction. Il sait, il le sait. Il va le faire. C'est dans sa sainteté. La justice oblige Dieu à intervenir. Mais il patiente. Il patiente encore parce que dans Toulouse, dans la France, au Cambodge, partout sur la terre, il y a des gens que Dieu veut sauver. Peut-être votre fille ou votre fils. Dieu veut le sauver. Vous le croyez? Alors il patiente. Il patiente, mais il est affligé. Croyez-moi, Dieu, le cœur de Dieu est affligé. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste. Le cœur de Dieu est affligé. Bien sûr que Dieu est un Dieu bienheureux. Bien sûr que Dieu se réjouit si tout à l'heure, quand on partira à la maison, on médite ces choses, si on s'endort avec... Dieu va voir, ça va lui réjouir. Il aime ça, le Seigneur, quand notre cœur médite ces choses. Je ne sais pas comment vous allez vous endormir ce soir, mais Dieu va le voir en tous les cas. Il cherche. Il ne cherche pas des gens qualifiés, il ne cherche pas des gens compétents, il cherche des prieurs. Il cherche des intercesseurs, il ne cherche pas des gens qui mettent plein la vue, qui sont capables de vous raconter toute la Bible de A à Z sans se tromper, ou qui connaissent des versets bibliques par cœur. Non, Dieu cherche des prieurs. Il cherche quelqu'un qui a cœur, qui comprend que cette colère va venir. Il le sait. Est-ce que vous le voyez, mes frères et sœurs? Elle vient, cette colère. Croyez-moi qu'une seconde après l'enlèvement de l'Église, les vierges folles, elles vont regretter de ne pas avoir écouté des prédications comme ça. Parce que vous savez que sur les 10 vierges, il y en a combien qui sont folles? Et c'est révélateur de la quantité de gens qui ne sont pas pris sur la terre. Je vous rappelle que c'est une prophétie. Je cherche. Vous y êtes dans Ézéchiel 22? Moi, ce texte, il m'a interpellé, peut-être parce que je suis pasteur ou parce que je forme des pasteurs, mais il m'a interpellé. Vous voyez, moi, je vais vous dire les deux mots qui m'ont interpellé dans ce texte. Je les ai soulignés en rouge. Dans cette version, c'est en vert. Ézéchiel 22, 30. Moi, il y a deux mots que j'ai soulignés. Je cherche ou Dieu cherche. Vous avez vu où c'est que Dieu cherche? Vous avez vu le descriptif de la situation morale, sociale et spirituelle? C'est terrible. Et pourtant, Dieu dit, je cherche où il cherche. Moi, j'aurais écrit, je cherche surtout pas parmi eux. Oui ou non? Et Dieu dit, je cherche parmi eux. Oui, vous pouvez dire merci Seigneur. Je cherche parmi eux. Dieu est obligé de travailler, enfin d'obligé, oui. Dieu travaille avec les hommes et les femmes. C'est dans la souveraineté de Dieu, le droit divin, la préscience de Dieu. Dieu travaille avec les hommes, c'est comme ça. Quand l'ange Gabriel vient dans la maison de Marie, voilà, vous voyez l'invisible qui se conjugue avec le visible, l'éternel qui se conjugue avec le temporel. C'est de tout temps, Dieu a utilisé... les hommes, que son nom soit béni. Est-ce que Dieu avait besoin de Noé? Est-ce que Dieu qui a créé les séquoias et tout ce que vous voudrez, est-ce que Dieu pouvait construire une arche tout seul? Est-ce que Dieu pouvait dire, voilà, je veux une arche de 150 mètres de long, 3 étages, en bois de gopher, couverte de poids de bitume, voilà. Combien de temps ça aurait pris? Le temps qu'ils le disent. Est-ce que Dieu pouvait le faire? Bien sûr. Quand on voit tout ce que Dieu a créé, je pense que petit morceau de bois, ça faisait pas beaucoup de différence. Il a pris un Noé. Il lui fallait un Noé. Le problème de Dieu, ce n'est pas le déluge. Le problème de Dieu, c'est le Noé. Vous êtes d'accord ou non? Le problème de Dieu, ce n'est pas sortir 600 000 hommes d'Égypte. Le problème de Dieu, c'est de trouver un Moïse. Le problème de Dieu, ce n'est pas d'amener des gens du désert à Canaan. C'est de trouver un Josué. Et vous pouvez le calculer, vous pouvez regarder. Il y a des gens qui... Il y a deux courants dans le mouvement. Il y a ceux qui disent que Dieu peut se passer des hommes et ceux qui disent que Dieu ne s'en passe pas. Moi, je pense que Dieu ne peut pas se passer des hommes. Pour faire son œuvre, Dieu utilise des hommes. Les pasteurs sont pas partagés là-dessus. Moi, c'est ma pensée. Quand Dieu veut faire quelque chose, il cherche quelqu'un. Il lui faut quelqu'un. C'est vrai que Dieu, des fois, est intervenu, mais même pour le jugement de Ninive, il lui fallait un pasteur, il ne tenait pas bien debout, mais quand même, il a utilisé Jonas. Il lui faut toujours quelqu'un. Et Dieu n'est pas en train de dire, bon, Jonas, il ne fait pas l'affaire, allez hop, on passe à un autre, Jonas numéro 2, ah, c'est son fils, allez, c'est bon, allez hop. Non, ça ne marche pas comme ça. Si Dieu te cherche ce soir, obéis, ne lutte pas. C'est la plus grande des bénédictions, être choisi par Dieu, c'est la plus grande faveur. Être là dans la maison de Dieu, c'est la plus grande bénédiction. Je cherche parmi eux. Dieu aurait pu dire, écoute, bon, ça suffit, je vais prendre un ange. Un ange, au moins, je suis sûr qu'il m'écoutera. Pourquoi Dieu n'a pas pris un ange? Après tout, est-ce qu'un ange pourrait plus faire le boulot? Eh bien, vous voyez, non. Quand Dieu a voulu sauver l'eunuque éthiopien, un ange a été trouvé, comme il s'appelle Philippe, mais est-ce que l'ange aurait pu aller trouver l'eunuque éthiopien? Il s'approchait, pourquoi mettre ses grosses ailes? Toi, le ministre, tu me reconnais? Je suis un ange du Seigneur. Ça aurait été peut-être mieux. Non, Dieu a utilisé un ange pour que Philippe puisse aller évangéliser l'eunuque éthiopien. Et on pourrait prendre tous les cas de Philippe. Je cherche parmi eux. Vous y êtes au verset 22 ? 30, pardon. Je cherche parmi eux, parmi tous ces gens perdus, voleurs, violents, incapables de distinguer la droite de la gauche, le bien du mal, le pieux de l'impie, etc. Ils sont incapables. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, dit « Je cherche parmi eux ». Ce soir, Dieu peut dire à l'Église de France « Je cherche parmi les chrétiens qui vont pas bien un homme, une femme qui va se lever et qui va comprendre les raisons pour lesquelles je l'appelle ». Parce que les gens ne répondent pas à l'appel parce qu'ils ne comprennent pas. Et en plus, on a été doté d'une intelligence. On ne peut pas répondre à un appel de Dieu comme ça, en disant « Ouais, c'est bon ». Non, on répond à un appel parce qu'on comprend. Il y a des raisons. Il faut savoir ce que Dieu veut. Vous pouvez faire l'affaire, n'importe qui. Dieu recrute, je répète. Mais voilà, le premier critère, même si ça ne va pas, Dieu peut vous prendre. Vous ne trouvez pas que c'est bien? Moi, parmi eux, je l'ai souligné. Je cherche parmi eux. Ça vous touche pas quand même? Sérieusement, c'est... Mais vous ne trouvez pas ça? Mais vous, comment vous pensez qu'il est notre Seigneur? Vous ne trouvez pas qu'il est merveilleux? Moi, franchement, moi, oui, même là, je me retiens. Je me retiens de pleurer de joie. Parce que je sais que Dieu ne veut pas nous juger. Le jugement, franchement, les hommes, ils vont le chercher. Mais le peuple de Dieu, il devrait comprendre une chose, que Dieu est tout le temps prêt à pardonner, tout le temps prêt à faire miséricorde, tout le temps prêt à agir selon sa bonté. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ce que je vous dis, ça doit vous toucher vraiment. Je cherche parmi tous ces gens qui ne vont pas bien, qui sont impies, qui vraiment profane mon nom, je cherche. Voilà. Donc n'importe qui peut faire l'affaire, à condition d'accepter les autres points, bien sûr. Parce que le premier point, c'est bien. Mais c'est quoi les autres points? Alors, qu'est-ce qu'il cherche, Seigneur? On le relit. Quelqu'un... Je cherche un homme qui soit à l'opposé de ce qui est décrit. Vous le comprenez bien. Un homme qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, entre c'est à vous ce qu'il dit. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Moi, j'ai reçu des mails ces jours-ci de ce qui se passe dans certaines églises évangéliques aux États-Unis. Ah, mais c'est vraiment grave, hein? Mais ça va venir. Ce qui passe aux États-Unis, ça vient de suite en France, en principe. Ça ne met pas longtemps à traverser. Je cherche un homme. Le deuxième point, c'est qu'il fasse la différence. Si vous voulez être cet homme, cette femme, ce couple, si nous voulons être l'Église que Dieu va choisir, il faut que nous sachions faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui est pur et ce qui est impur, entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, etc. On doit distinguer dans une Église ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'aujourd'hui dans les Églises, est-ce qu'aujourd'hui dans les églises on est capable de distinguer ce qui vient de Dieu? Hier encore dans une pastorale, on m'indiquait qu'on pouvait utiliser des gens qui ne sont pas convertis pour servir dans les églises. Eh bien voilà, c'est ça que Dieu dénonce. Dans une église, tous les gens qui servent doivent avoir Dieu pour père. Et quand on en arrive dans les églises, que les hommes de Dieu acceptent que même un inconverti, mais monsieur Dupont, il joue super bien de la clarinette, il pourrait jouer, on va le gagner. Monsieur Dupont, mais venez jouer. Ça vous fera du bien. Et c'était bien, il joue bien. Vous voyez comme les gens sont sentimentaux. Mes frères et sœurs, si monsieur Dupont, il joue bien de la clarinette, mais qu'il n'a pas donné son cœur à Jésus, son père, c'est qui? C'est le diable. Ça vous choque, ça m'est égal. Mais c'est la vérité. Tant que quelqu'un n'a pas donné son cœur à Jésus, son père, c'est le diable. Si vous voulez des preuves, je vous les donnerai tout à l'heure. Et nous, on s'autorise à faire des choses infâmes. C'est les mots que Dieu utilise. Profanes. Dieu cherche un homme qui, n'importe qui fait l'affaire, c'est que son nom soit béni, mais quelqu'un qui sache faire la différence entre ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Et dans une église, on ne fait pas n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Dans une église, on respecte la parole. Et si Dieu demande à ce que quelqu'un qui n'est pas encore converti n'a pas sa place dans le service, mais même pour balayer. Moi, je vous demande, même dans l'église, que ceux qui viennent balayer, parce que c'est un service pour Dieu, eh bien, s'ils sont pas convertis, eh bien, on ne les utilise pas. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Moi, ça m'est égal. Je sais que c'est important pour le Seigneur. C'est ça que Dieu est en train de... L'homme que Dieu cherche, la femme que Dieu cherche, c'est cette femme qui va dire « Oui, je ferai le choix. » Tout ce que Dieu veut, c'est qu'on serve dans la sainteté. Parce que cette affaire, c'est une affaire de sainteté. Regardez, lorsque justement, dans Luc 1, on prend un verset. Il y en a plein, bien sûr, vous le comprenez. Luc 1, 76. Regardez ce verset. Comment il faut servir Dieu? C'est magnifique comment c'est écrit dans ce verset. C'est pour ça que je l'ai pris. Luc 1, 74 et 75. Regardez comment si c'est beau. C'est dans le fameux cantique de Zacharie. Comment il faut servir? Comment il faut servir? Alors, Luc 1, 74 et 75. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir, premièrement, sans crainte. Regardez bien, verset 75. « En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. » Voilà comment Dieu veut que nous le servions. Dans cet état d'esprit, la sainteté, c'est un choix. Que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui se souille, se souille. J'en ai parlé dimanche. Voilà. Le troisième point, il faut être conscient de la colère à venir. C'est une chose qui va nous encourager. Je sais que la colère vient. Je sais que ce pays va connaître la colère quand l'Église va être enlevée, quand vous lisez cette fameuse guerre de Gog, le jour où la Russie va monter contre Israël. Laissez-moi vous dire que ça va vraiment, vraiment, vraiment chauffer. Mais comme c'est la colère de Dieu, l'Église, c'est obligatoire. Elle sera enlevée avant. C'est sûr et certain. Et ce sera certainement le plus grand signe qui existera sur la terre lorsque la Russie cherchera à attaquer Israël, aidée par l'Iran, etc. Et la Somalie, j'abrège, laissez-moi vous dire qu'il vaudra mieux avoir revêtu une robe blanche, croyez-moi. Conscient de la colère à venir. Comment je vais être rempli de passion? Comment je peux avoir de la passion pour les hommes si je ne sais pas ce qui va se passer? Si je savais, si nous savions, par exemple, ce que je vais dire, c'est une bêtise, mais si nous savions que Jésus revient avant la fin de l'année, bon, c'est impossible, c'est pas une prophétie, vous inquiétez pas. Mais nous saurions que Jésus va revenir avant la fin de l'année. Est-ce que nous aurions pas davantage de passion pour les âmes? Mais bien sûr. Vous voyez? Et c'est ça ce point. Je cherche un homme qui se tienne à la brèche. C'est pas la question de faire des petits allers-retours de 5 minutes. Ah, je viens prier 5 minutes, je ne sais pas quoi faire aujourd'hui, je viens prier 5 minutes. Non, c'est pas des petits allers-retours, coucou, mais voilà, je viens, je vous rejoins prier. Non, c'est quelqu'un qui se tient à la brèche. Il est dans la prière, qu'il soit au travail, qu'il soit sur la rocade en train de patienter, en train d'avancer, où qu'il soit. Il se tient à la brèche. C'est pas géographique. Vous n'avez pas besoin de trouver une brèche dans un mur pour vous prier. C'est une question spirituelle. Je veux persévérer. Et vous savez, le diable, il le sait, que la plus grande force, c'est la prière. La plus grande force de l'Église, pas la prière dont on a parlé mardi dernier, la prière dont on parle ce soir. Cette prière dans l'obéissance, cette prière dans la sainteté, cette prière, non, je ne méprise pas le Seigneur, je respecte la parole. Et les pasteurs qui m'écoutaient, si vous avez des inconvertis sur l'estrade, enlevez-les. C'est comme ça que Dieu trouve des gens qui sont capables de faire la différence. C'est là qu'on fait la différence. Et le diable, bien sûr, il fera tout pour que des inconvertis soient sur les estrades. C'est sûr qu'il le fera. Il fera tout pour que la maison du Seigneur soit souillée. On a lu l'Ancien Testament l'autre jour, on a lu des textes. Ça fait peur. Ça fait peur. On va en relire un pour les gens qui n'étaient pas là. Qu'on ne l'a pas lu la semaine dernière. Dans 2 Rois 23, on ne l'a pas lu parce qu'on n'avait pas le temps de tous les lire. Mais regardez, regardez ce qui s'est passé dans la maison de Dieu. Ça fait peur quand même. Ça fait peur. 2 Rois 23. Ce qui s'est passé. Non mais, on va lire juste un verset. Non mais ça fait peur. Regardez, un verset. Un seul. Franchement, ça fait pitié vraiment. 2 Rois 23, verset 7. Je ne sais pas si vous réalisez. Je comprends pourquoi Dieu a détruit le temple. Lui qui avait dit, j'aurai toujours mes yeux et mon cœur dessus. 2 Rois 23, verset 7. Vous savez, on pourrait se dire, tiens, mais pourquoi Dieu a voulu que ce verset ou ces versets soient dans la Bible? Mais oui, c'est pour qu'on soit sérieux. 2 Rois 23, verset 7. Il a bâti les maisons des prostituées qui était dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour Astarté, encore pour une idole. Prostituées, vous avez vu qu'il n'y a pas de « e ». Donc c'était quoi? C'était des hommes. Vous avez comme ça? Vous avez un « e » ou non? C'était des hommes. Dans des prostituées, dans la maison du Seigneur. Alors bon, c'est sûr que Josias, il a fait du bon travail. Dans la maison du Seigneur, des homosexuels, des prostituées, et est-ce? Ah, je comprends pourquoi le Seigneur n'a plus supporté le temple. Mes frères et sœurs, l'homme, la femme, le jeune, le vieux, le couple, l'église que Dieu utilisera, c'est cet homme-là. Il dira oui. J'ai une bonne raison de me tenir dans la prière. Et je veillerai à ce que le diable ne m'empêche pas de prier. Je m'arrangerai. Demandez-lui au Seigneur. Et croyez-moi, il va vous aider. N'oubliez pas que depuis que Jésus est remonté au ciel, c'est lui qui l'a dit, depuis qu'il est remonté au ciel, il a reçu pouvoir sur toute chair. C'est écrit. C'est écrit, Jean 17. Depuis qu'il est remonté au ciel, il a reçu pouvoir sur toute chair. Depuis qu'il est ressuscité, il est assis sur le trône et il a autorité sur toutes les autorités, les puissances, les dominations. Nous avons un Dieu puissant qui nous donne les armes. Il ne nous laisse pas démunis. Voilà, il y a des gens qui sont comme des soldats en caleçon, c'est sûr, sur un champ de bataille. Mes frères et sœurs, quelle misère. Le Seigneur, il nous a demandé de combattre. Ça peut être un bon combat. Je veux combattre. Je vais être armé de toutes les armes. Et je sais que mon combat, ça sera un bon combat. Quand Dieu nous demande quelque chose, il n'est pas comme Pharaon, qui lui ordonnait au peuple de faire des briques et d'aller chercher la paille. Il leur mettait une pression pas possible. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, vous êtes sûr que ça ne va pas nous épuiser. On peut le faire. Nous avons un grand Dieu. J'aimerais qu'on lui réponde. Un mot. On peut fermer les yeux, tout simplement, qu'on réponde à sa parole. Tout simplement, pas la peine de faire des impositions des mains, mais que chacun, et peut-être cette femme à qui Dieu s'est adressé tout à l'heure, mais un jeune peut-être qui dit « moi aussi je vais être un ancien », vous ne savez pas, peut-être que dans 3-4 ans vous serez ancien dans une église. Et il va falloir que vous deveniez l'homme selon les critères de Dieu, pas selon les vôtres, laissez-moi vous le dire. Le recrutement de Dieu, c'est selon ses critères, pas les vôtres. Est-ce qu'il y a une femme, un homme, un vieux, une vieille, un jeune homme, une jeune fille, un couple? Est-ce qu'il y a une église en France, qui est capable de dire « Seigneur, oui, j'accepte le recrutement, je viens.
je viens ce soir, Seigneur. Oui, je suis un peu comme ces gens. J'ai méprisé, profané, Seigneur, j'ai pas toujours fait la différence, je suis incapable même. Mais mes frères et sœurs, quelle grâce, quel amour, quelle bénédiction je cherche parmi nous. Ce soir à Sainte-Agne, quel bonheur. Le Seigneur te dit, je cherche, oui, je te cherche. T'as pas fait l'affaire jusqu'à aujourd'hui, t'as pas été bien. Mais tu fais l'affaire. Si tu respectes ces critères, oui, c'est Dieu qui te parle. Tu vois, si tu les respectes, ces quatre critères, qu'a donné le pasteur, eh bien, tu feras l'affaire. Vous pouvez lui dire merci, je vous le dis. Alors, mes frères et sœurs, on va prier pour qu'on se mette au travail. Vous croyez que Dieu va nous aider ? Il va vous aider. S'il voit quelqu'un qui frémit à ces choses, laissez-moi vous dire que le Seigneur, il va vous prendre la main. Dieu a une main pour bénir ceux qui le cherchent. Simplement, terminons en priant et surtout en le remerciant. Notre Père, nous savons, c'est évident, que le jour de la colère vient, que la colère va te monter au visage et que le monde va connaître la calamité totale partout. Mais nous ne sommes pas nous destinés à la colère, nous sommes destinés à la gloire, à l'honneur. Et Seigneur, cela nous bouleverse de savoir que tu nous as destinés à la gloire. Et nous voudrions que des multitudes connaissent ta gloire avant que la colère ne vienne. Tu vois tous nos enfants, Seigneur, nos petits-enfants, les rétrogrades. Seigneur, aide-nous à nous tenir à la brèche. Aide-nous en rentrant à la maison, tout le temps. Aide-nous, Seigneur, à être ces instruments que tu vas certainement porter, comme cette femme vertueuse qui rit lorsqu'elle pense à l'avenir. Qu'il en soit ainsi dans l'Assemblée, Seigneur. Garde-nous attachés à ta parole, que nous ayons ce saint respect de ta parole, que nous aimions la serrer dans notre cœur, afin de devenir cette Église que tu voudras, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez rentrer à la maison. Que Dieu vous garde.